Studio Tamani, voici les informations en français.
Vendredi 1er décembre, il est 8h. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la synthèse de l'actualité matinale. Voici les titres. 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. À ce jour au Mali, plus de 119 000 personnes vivent avec cette pathologie. COP 28, c'est parti pour les deux semaines de négociations sur le climat. Déjà, un premier texte pour la mise en œuvre du fonds pour pertes et dommages a été adopté. Faciliter le vivre ensemble des déplacés et l'intégration des réfugiés, c'est l'objectif d'un projet qui a été lancé hier jeudi à Bamako. Les détails à suivre dans cette édition. Au micro, Mariam Maïga, la mise en onde est assurée par Mamadi Keïta. Je vous le disais dans les titres, la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida sera célébrée ce matin sous le thème « Accélérer le dépistage sous le leadership communautaire ». Cette commémoration intervient au moment où le taux général de prévalence de la maladie est faible, soit 0,8% de la population. Sur les 119 300 personnes vivant avec le VIH-Sida au Mali, il y a plus de 100 000 adultes et plus de 12 000 enfants. Plus de 50% de ces malades sont sous traitement, a indiqué le réseau malien des personnes vivant avec le sida. Les détails dans ce reportage signé Intala Agbilal.
Le sida est et demeure l'un des problèmes majeurs de santé publique au Mali qu'il faut continuer de combattre, a déclaré Ousmane Traoré, chef département planification stratégique et suivi évaluation du secrétariat du Haut Conseil national de lutte contre le VIH-Sida.
Au Mali, la prévalence surtout est de 0,8. On a environ 119 326 personnes vivant avec le VIH, avec 74 947 femmes et 44 379 hommes. En termes de décès, on enregistre 4891 décès.
Abdoulaye Bané Di Socrate est membre du réseau malien des personnes vivant avec le VIH-Sida. Il assure que des ressources importantes sont mobilisées pour assurer la gratuité et la disponibilité des soins aux malades du VIH-Sida.
Les antirétroviraux qui sont disponibles dans tous les sites de prise en charge, et les biens biologiques aussi, mais l'énumération, les CRIAS, les transats, et puis vraiment ça fait longtemps qu'on ne bénéficie pas ça.
Il faut noter que la prévalence de la maladie est beaucoup plus élevé chez les personnes cibles, ont indiqué les statistiques du secrétariat du Haut Conseil national de lutte contre le sida. Elle est de 12,6% chez les homosexuels, 11,7% chez les transgenres et 8,7% chez les travailleuses de sexe. Elle est également élevée dans les zones d'orpaillage.
Un reportage signé Intala Agbilal. Rejoignez la communauté Studio Tamani en laissant vos critiques et suggestions sur notre page Facebook ou encore sur Twitter. La COP 28 a démarré ce jeudi avec l'adoption d'un premier texte, celui qui permet la mise en œuvre du fonds pour pertes et dommages. L'adoption de ce texte intervient après un an de bras de fer entre les pays développés et ceux en voie de développement. L'objectif est d'assurer un soutien significatif aux personnes les plus vulnérables à travers le monde. Plus de détails avec Issa Togola.
Au cours de cette première journée de la COP 28, les États ont donné leur accord pour financer les pertes et dommages climatiques des pays vulnérables. Il s'agit d'un signal fort et d'une décision historique, soulignent de nombreuses organisations comme les réseaux Action Climat. Parmi les populations concernées par ces fonds, celles de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Différents pays s'engagent déjà à verser des contributions. Les Émirats arabes unis annoncent 100 millions de dollars, les Royaumes-Unis 75 millions de dollars et le Japon 10 millions de dollars. Selon les textes adoptés ce jeudi, le fonds doit être accueilli provisoirement pour 4 ans au sein de la Banque mondiale. Le démarrage est prévu en 2024. La société civile africaine espère que l'accès ne sera pas compliqué. Elle invite également les plus grands pollueurs comme les États-Unis à rehausser leurs contributions et à débloquer le financement crucial nécessaire pour garantir une COP 28 transformatrice. A noter que ce fonds est différent des 100 milliards de dollars dus par les pays développés pour l'adaptation et la transition écologique.
Vous pouvez suivre ces deux semaines de négociations sur le climat à travers nos envoyés spéciaux sur place à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Sur un tout autre sujet, un projet appui au renforcement de la coexistence pacifique, le vivre ensemble entre les réfugiés, les déplacés internes, vient d'être lancé. Il concerne également les communautés hautes vulnérables. Il vise à promouvoir les bonnes relations entre ces entités. Le projet est mis en œuvre par Amsor épisodes dans la région de Gao et le district de Bamako pour une durée de 12 mois. Les détails avec Jiadat Maïga.
Le syndicat de l'INSP menace d'aller en grève le 4 décembre prochain si ses doléances ne sont pas satisfaites. Souleymane Alkamissa Cissé, chargé de communication du bureau syndical de l'INSP.
Bon, pour le moment, nous n'avons pas décidé de mettre fin au sitting. Tant que nous n'avons pas des interlocuteurs avec lesquels nous discutons, nous échangeons sur nos revendications, on ne peut pas mettre fin au sitting. Si on n'a pas de solution d'ici le lundi, nous allons partir en grève pour 72 heures.
La coordination des enseignants signataires du 15 octobre 2016 du district de Bamako envisage aussi d'aller en grève le 20 décembre prochain pour non-paiement de leurs primes. Maki Diassana, membre de la coordination.
Malheureusement, à la sortie des rencontres-là, nous avons vu que pour le moment, ils ne sont pas écoutés et apparemment, on ne peut pas avoir gain de cause avec la stratégie actuelle et voilà pourquoi on a changé de stratégie.
Rappelons que les enseignants de Bamako exigent le rétablissement immédiat et effectif des primes des enseignants mise à disposition, le paiement des rappels restants et la gestion des irrégularités relatives au salaire du mois d'octobre.
Il s'agit là d'un reportage de Ousmane Nyalibouli sur la série de préavis de grève au sein de certaines administrations, notamment chez des enseignants ou encore à l'Institut national de prévoyance sociale INSP. Allons direction à Yoroso maintenant, où une dizaine d'écoles sont fermées à Boura et environnant depuis le 30 octobre dernier. Selon le Centre d'animation pédagogique, cette fermeture prive plus de 1500 enfants d'éducation. Préoccupés par la situation, les parents d'élèves interpellent les autorités pour la réouverture de ces classes. On en vient à notre dossier de la semaine. Les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et filles se poursuivent. Aujourd'hui, notre dossier de la semaine s'intéresse aux violences conjugales vues sur le plan culturel et mental. Qu'est-ce qui explique ces abus qui conduisent souvent à la mort? Le dossier est signé Adama Amadou Haïdara.
Sitanso Soumaoro, aujourd'hui femme divorcée, a subi des violences physiques de la part de son ex-mari. Des actes dont les souvenirs sont encore frais dans sa mémoire.
Pour un oui, pour un non, monsieur me battait. Il me battait parfois quand j'étais enceinte. Pourquoi est-ce qu'il me battait? Bon, je ne saurais le dire réellement.
Qu'est-ce que la tradition dit de ces actes de violence dans le couple? Moussa Balabalo, traditionnaliste, nous édifie.
Il y a des ethnies qui acceptent. Ils appellent ça des corrections. Il y a ceux qui passent par avertissement et qui pensent que c'est tolérable. Il y en a aussi qui pensent qu'il faut passer d'abord par un parent face à la culture de telle ou telle localité. La violence est acceptée ou la violence est condamnée.
Cependant, notre traditionaliste précise qu'il y a des aspects que la tradition ne tolère pas.
Des propos qui ne s'arrêtent pas à la femme elle-même, ce n'est plus acceptable. On doit le transporter sur un autre plan pour procéder à un jugement dans le vestibule de la conciliation. Au traitement corporel, le plus souvent, ça s'arrête là-bas. Elle vient montrer les plaies sur la peau. Sa maman est la première à dire que moi, j'ai essuyé plus que ça. Le père, il trouve toujours l'alibi d'accepter, de pardonner le mari quand il s'agit d'une correction corporelle.
Les actes de violence s'expliquent également sur le plan sanitaire. C'est du moins ce qu'affirme ici professeur Souleymane Koulibaly, psychiatre au CHU.J.
Le comportement sadomasochiste où le mari qui se plaît à faire porter des violences sur la femme et la femme qui se plaît à recevoir effectivement ces violences-là. Des troubles de la personnalité paranoïaque, des troubles caractériels, des psychopathiques, des troubles. C'est un ensemble de troubles qui concernent la personnalité, les personnes qui sont proches. C'est eux qui vont souffrir auprès de ces personnes-là.
Pour éviter l'irréparable, Moussa Balabalo conseille au couple de privilégier la communication.
Tout ce que tu ne comprends pas chez l'autre, demande-lui. Et si tu n'acceptes pas, dis-le-lui clairement et de façon polie. Et la femme, il faut être docile, se préparer à tout accepter, même s'il ne faut pas tout concevoir.
Malgré les nombreuses sensibilisations, les violences faites aux femmes et filles continuent de faire des victimes.
Sport, football, large victoire du Mali, 7-2 face à la Guinée au compte du 10e tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique féminine 2024 au Maroc. La rencontre s'est jouée hier soir. Ne disposant pas de stade homologué, la Guinée va recevoir le Mali au Sénégal pour la manche retour prévue le 5 décembre 2023 à 16h à Thiès. Ainsi prend fin cette édition qui vous a été présentée par Mariam Maïga. La mise en onde est assurée par Mamadi Keïta. Vous pouvez retrouver cette édition ainsi que toutes les autres productions de Studio Tamani sur l'application Studio Tamani téléchargeable sur Play Store. Ne décrochez pas car juste après le magazine, vous aurez la version en Bambara avec Idrissa Sako. D'ici là, excellent début de week-end à toutes et à tous.
Attention, la dengue existe au Mali. De nombreux cas sont enregistrés dans le pays. Ousmane Touré, un malade guéri, nous parle des symptômes de la maladie.
Moi, j'ai eu la dengue. Ça s'est d'abord manifesté par beaucoup de courbatures, de violents maux de tête, des nausées. Je me sentais très, très, très faible également. Mais le fort, c'est vraiment les courbatures qui m'ont fatigué. On a mal absolument partout, de la tête aux pieds.
La dengue n'est pas à prendre à la légère. Seule une prise en charge rapide augmente les chances de guérison, affirme Monsieur Touré.
Ce n'est ni un palud, ni autre chose, c'est la dengue. Et c'est vrai que c'est provoqué par les moustiques. Et il faut prendre cette maladie au sérieux parce qu'elle est en train de faire énormément de mal, énormément de dégâts autour de nous. Il faut se faire dépister. En cas de besoin, n'allons pas seulement faire le test du palu, faisons également le test de la dengue pour nous rassurer.
Ceci est un message de Studio Tamani
en partenariat avec le ministère de la Santé et du Développement Social.
Le magazine « Tous les enfants du Mali » parle des relations grands-parents et petits-enfants. Il est réalisé par Lale Tangara avec le concours de nos correspondants.
La relation entre grands-parents et petits-enfants au Mali de façon générale est marquée par l'attachement des uns aux autres. Des enfants de Tominia, Kolokani et Bamako témoignent.
J'apprécie mon grand-père qui aime s'amuser avec moi.
Je m'attends très bien avec mes grands-parents, mais souvent ils me livrent à mes parents.
Très souvent à mon retour de l'école, je prends du plaisir à nettoyer chez ma grand-mère. On se taquine bien.
J'envie mes camarades qui s'amusent avec leurs grands-parents. Les miens ne vivent plus.
Cette relation pour moi est d'une importance. On est bien protégé par eux face à nos parents.
Cette affection entre grands-parents et petits-enfants se manifeste de différentes manières en fonction des cultures. Chez les Soninké, par exemple, la relation grands-parents et petits-enfants est agrémentée par des plaisanteries, des taquineries. Massiré Damélé, traditionnaliste à Gouridjafounou, dans le cercle de Yelimani, une localité majoritairement Soninké.
Quand ta longévité te permet de voir tes petits-enfants, c'est une très bonne chose. Si c'est un garçon, il devient ton rival. Mais si c'est une fille, c'est ta petite femme. Vous devenez comme des complices, ce qui n'est pas toujours possible avec tes propres enfants.
À Yoroso, dans la région de Kuchala, en pays Mianka, cette plaisanterie entre grands-parents et petits-enfants a des limites, nous dit Yaya Guita, enseignant à la retraite à Yoroso.
Il a été permis, mais à une condition. Ne pas trop l'offusquer. Son petit-fils pouvait lui dire la vérité. Papa, est-ce que tu t'es lavé aujourd'hui? Mais le fils ne pouvait pas lui dire ça. Et ensuite, la vie continuait. Et le vieux ne se mettait jamais en colère. Les limites à ne pas dépasser, ça c'est les insultes grossières. Ne pas insulter le vieux et puis prendre un bâton et le frapper, ça c'était des interdits.
Des interdits. Il en existe aussi dans les relations entre grands-parents et petits-enfants chez les communautés du nord du pays. Dans les cultures Sonraï et Tamashek, le grand-père ou la grand-mère a presque le même statut que le père ou la mère pour les petits-enfants. San Chirifi Alpha, notable à Tombouctou.
Elle a beaucoup plus de liberté avec ce grand-père, donc ce qui crée des relations de cousinage. Mais il faut dire que ça reste dans les limites du respect qu'on ne doit pas franchir parce que ton grand-père, mais c'est le parent de ton père quand même.
Le sociologue Fodier Tandjougoura explique que cette relation détendue qui existe entre grands-parents et petits-enfants est bénéfique pour la société car elle donne aux petits-enfants un certain rôle dans la famille.
Ce qu'il faut savoir des relations entre grands-parents et petits-fils, c'est que ces relations, on en trouve chez presque toutes les ethnies du Mali. Parce que, les effets que cela implique sont bénéfiques pour la société. Ça peut être Lorsque le grand-père est en colère, le petit-fils a cette capacité de le raisonner ou d'estomper la colère en lui. Le fils ne pourrait pas le faire. Donc le petit-fils joue ce rôle crucial.
Il faut signaler que cette joie de vivre que procure la relation entre grands-parents et petits-enfants est en train de disparaître. Cela à cause des familles de plus en plus nucléaires où on trouve que les deux parents et leurs enfants.